De Radio Classique avec David Abiker.
Et avec nous ce matin dans Esprit Libre, Maître Sophie Obadia, avocate au barreau de Paris, et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate.fr et ancien directeur du Monde. Merci à tous les deux d'être là.
Bonjour David. Bonjour David.
Sur Radio Classique. Emmanuel Macron est à Dubaï. On sait qu'il va y faire du en même temps, puisqu'il va évidemment parler du climat, mais il va se soucier également de la crise au Proche-Orient. Changement climatique et puis crise, guerre, on n'oublie pas évidemment l'Ukraine. Ce qui fait qu'il y a deux jours, interrogé sur le monde qui vient, un responsable politique et pas des moindres, ancien candidat vert à l'élection présidentielle, a eu cette drôle de réaction.
J'ai la trouille pour notre pays, c'est la première fois que j'ai peur. L'effondrement climatique, avec tout ce que ça veut dire socialement, et l'effondrement démocratique. Le futur fait peur, les guerres omniprésentes, y compris à nos frontières, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, évidemment, Israël, Palestine, ce sont la trouille, c'est la peur sociale. Nos enfants vivront moins bien que nous, c'est les chocs climatiques.
C'est la trouille, Yannick Jadot à la trouille. Ça vous inspire quoi, un responsable politique qui, en général, doit montrer un cap, doit mobiliser, doit avoir des idées, doit positiver cet aveu de la trouille.
On vit dans cette ambiance de catastrophisme et de fin du monde presque avant même qu'elle ne se produise. Donc la peur, puis c'est un instrument politique, faut jamais l'oublier. La peur est maniée par toute une série de mouvements d'opinion qui cherchent à faire peur précisément pour justifier un vote, réduit à des slogans. Donc ça, c'est un phénomène assez classique. Et l'époque n'est pas nouvelle de ce point de vue-là, parce que quand on est passé de la société agraire à la société industrielle, il y avait de la même façon la même peur. Il faut simplement se souvenir que la peur nourrit la colère nourrit la haine, et la haine amène la violence.
En même temps, on n'imagine pas Napoléon dire j'ai la trouille, Napoléon III, pas davantage, le général de Gaulle, Jeanne d'Arc. On a l'impression qu'on a affaire à une génération politique qui cultive l'anxiété.
Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est un peu un fonds de commerce aussi, puisque c'est une façon aussi de mobiliser de son côté, de faire peur précisément. En même temps, il y a beaucoup de sujets comme ça qui peuvent faire peur, mais le problème c'est en fait celui d'une attitude collective qui ne devrait pas être celle-là et qui devrait être au contraire. Regardez par exemple, on est quand même dans un univers contrasté qu'on passe toujours sous silence. Regardez les progrès phénoménaux de la médecine. Regardez l'épisode récent qui est celui du Covid. En combien de temps a-t-on trouvé un vaccin? Ce sont des progrès spectaculaires.
Mais il y a des gens qui ont la trouille du vaccin.
Oui, il y a des gens qui ont
la trouille. Il y a des gens qui défient la science.
Toujours. Et ça, c'est depuis que les vaccins sont
nés. Les gens, si vous leur parlez vaccin, ils partent en courant.
Oui, c'est sûr, ça. Mais ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. L'essentiel de la population a quand même été protégé. Regardez les progrès qui sont faits aujourd'hui dans la lutte contre le cancer. Etc. On vit en même temps une époque assez exceptionnelle sur ce plan-là. Donc ça devrait au contraire nourrir la confiance. Alors on vous dit, oui, mais il ne faut pas tout faire reposer sur la technologie, sur la science, etc. Parce que oui, les dangers sont là, mais les dangers sont faits pour en prendre conscience et pour agir en conséquence, mais
Sophie,
pas pour susciter des votes.
Mais la peur est un Sophie, instrument, évidemment, est un instrument politique majeur, et on y est.
Toujours.
Non, mais là, on y est, parce que ce que dit ce responsable politique est et je pense qu'il n'est pas suffisamment responsable, précisément, c'est de tout confondre. Il prend tous les problèmes en même temps. C'est pas possible, évidemment. Si je prends tous les problèmes en même temps, j'ai peur. Lui, son travail, a priori, c'est quand même de travailler sur l'écologie, de nous proposer des solutions et d'aller de l'avant. S'il commence à prendre toutes les guerres et puis, effectivement, nous sommes informés de tous les problèmes en même temps, c'est anxiogène.
C'est aussi, comme dirait l'autre, un mal français, parce que dans chaque campagne électorale, on vous explique qu'on va redresser le pays, lequel s'est effondré. Depuis le temps et depuis le nombre de campagnes électorales...
On devrait tous être morts. On est toujours là.
Depuis le temps, le pays ne devrait plus exister, puisqu'on va d'effondrement en effondrement. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut vraiment prendre de la distance avec ce type de langage, parce que c'est vraiment le béaba de la politique réduite à sa médiocrité.
Je veux quand même... J'ai vu une séquence à la télévision sur Arte tout récemment, où une sémiologue expliquait que ce qui s'était passé à Crépol, par exemple, qui traumatise les Français, qui les traumatise absolument, qui voit une forme d'injustice injustice, c'est toujours une injustice évidemment, un enfant qui meurt. Cette sémiologue disait, prenez de la distance avec l'événement. Elle disait, ces faits divers, c'est la réactualisation du mythe de Roméo et Juliette. Comme si on voulait pas regarder les choses telles qu'elles sont.
Si un
fait divers traumatise les Français, il faut prendre au sérieux le traumatisme des Français.
D'ailleurs, vous aurez observé, elle n'est pas sémiologue. Tantôt elle est historienne, tantôt elle est sociologue. Déjà, ça pose une difficulté en tant que qui parle-t-elle et par ailleurs, alors elle, pour le coup, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire qu'elle est hors sol, elle ne voit pas la réalité, et la réalité n'est pas forcément très anxiogène. C'est effectivement un fait divers gravissime, mais de là à le romantiser en racontant une histoire qu'elle peut effectivement servir à ses étudiants, mais certainement pas à l'opinion publique, là, on est hors sol, voilà. Et en fait, je crois qu'on doit pouvoir trouver une juste distance entre la peur tous azimuts et le déni de la réalité qui nous emmène là aussi à ne pas voir les choses comme elles doivent être vues.
Jean-Marie Colombani, je voudrais qu'on fasse très vite sur Crépol parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur faits de société, faits politiques. Mais quand admettons un fait divers ou admettons un fait de société, quand il parle autant à l'opinion qui se pose des questions sur la sécurité, sur le fonctionnement de la justice aussi, parce qu'il y a déjà des gens qui anticipent sur les condamnations de ceux qui auront porté la violence dans ce bal populaire, dans cette rencontre festive, et qui disent de toute façon il y aura du sursis, le gars fera une peine légère. Il y a un désarroi.
Il y a un vrai désarroi, comme disent les météorologues. Il y a un ressenti qui est très exactement celui que vous dites. Et en même temps, ce n'est pas, hélas, un phénomène nouveau. Je veux dire, dans les années 60, il y avait les blousons noirs, il y avait des bandes qui se mêlaient, des balles populaires qui arrivaient avec des chaînes de vélo et des armes et qui tapaient au point qu'un certain nombre de villages ont dû renoncer à organiser précisément ces fêtes.
Ou avoir des
vigiles
dans les balles.
Mais le problème aujourd'hui vient de ce que aussitôt, à peine le crime commis, on lui a plaqué une lecture ethnico-religieuse. Et donc, il y a toute une frange de l'opinion politique qui veut ramener tout cela ça aboutit à des responsables politiques qui nous disent c'est une petite guerre civile ou bien on va vers la guerre civile. Donc, c'est une façon d'attiser, la peur.
On peut
regarder les choses plus calmement, si j'ose dire, même si c'est évidemment dramatique, et prendre des mesures qui doivent être prises, mais sans en faire un nouvel épisode de la guerre d'Algérie, ce qui est quand même le fond de l'affaire chez, par exemple, Zemmour. La dimension médiatico-politique est essentielle dans ce genre de choses.
Mais ce qu'il y a dans le cœur des Français et dans cette façon de pointer l'insécurité, on laisse de côté la dimension ethnique, la guerre civile, etc. Mais en fait, un des éléments du pacte social, c'est de pouvoir vivre en sécurité partout sur le territoire.
Et ça reste au premier rang des
préoccupations.
Il y a un mort par jour à Marseille.
Voilà.
Et donc la sécurité augmente. Donc, c'est pas un mythe.
Sophie Aubagnard.
Ça, c'est pas un mythe.
Puisqu'on parle des fonctions régaliennes, on va parler du rendu de la Cour de justice de la République. Parce qu'on a parlé aussi là beaucoup de politisation de la justice. On a dit c'est une justice de politique pour les politiques. Et puis on n'a pas vraiment décrypté le jugement. Et c'est ce que vous proposez de faire maintenant.
Oui, parce que ce jugement est quand même nouveau dans la manière d'aborder le fait du conflit d'intérêts, parce qu'en réalité, moi je considère que la poursuite du garde des Sceaux était injuste, était inique. Parce que, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est le conflit d'intérêts, c'est d'avoir été avocat avant de devenir garde des Sceaux. Et qu'en tant qu'avocat, il a connu des magistrats avec lesquels il a eu maille à partir, et c'est ça qui lui est reproché. Donc en réalité, on lui reprochait d'avoir lancé ou accepter de lancer deux enquêtes. L'une contre un juge qui s'appelle Monsieur Levrault, et ça c'est finalement le plus important et le moins connu, parce qu'il avait défendu un policier avec ce juge d'instruction et que ce policier avait voulu poursuivre ce juge d'instruction devant le CSM. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que on voulait mettre en cause la responsabilité d'un magistrat, et c'était Éric de Pont-Moretti qui était l'avocat de ce policier. La deuxième affaire, on la connaît plus, c'est celle des fadettes, de l'affaire Bismuth, et elle est scandaleuse, à savoir qu'on a géolocalisé et pas suivi, mais quasiment suivi, puisqu'on regardait les factures détaillées de certains de mes confrères ici à Paris pour savoir s'ils avaient informé Nicolas Sarkozy et son avocat du fait qu'il y avait la ligne Bismuth qui avait été découverte. Ça, c'est gravissime. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'ont décidé de faire les magistrats de la Cour de justice de la République, c'est de faire une nouveauté, c'est-à-dire que ce n'est plus un délit automatique. Un délit automatique, ça veut dire, oui, il y a une prise illégale d'intérêt et on condamne. Ils ont dit, oui, il y a prise illégale d'intérêt, et en fait, parce qu'il était avocat, il n'aurait pas pu devenir garde des Sceaux, c'est ça qu'on veut dire. Mais on considère que l'intention n'était pas vraiment là parce qu'il n'a pas vraiment voulu se lancer dans une vengeance personnelle. Et c'est vrai qu'à la barre, aucun témoin n'a dit qu'il avait entendu Éric Dupond-Moretti dire « je vais me les faire, je vais me les payer », etc. Donc on a dit « écoutez, il a été peut-être mal conseillé, il est allé trop tard demander à son administration s'il était en situation de conflit d'intérêts et on ne l'a pas entendu en faire une revanche personnelle dès lors ». On le relaxe. Mais ça, c'est une nouveauté. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, le conflit de prise illégale d'intérêt, on ne va pas jusqu'à l'élément intentionnel. Et là, on y est allé. Et je pense, parce que nous le pensons tous les deux, que c'est un bon accord qui a été passé entre les magistrats et les représentants de la nation.
Il faudrait avoir quand même la télévision tout en écoutant la radio pour avoir l'image et le sourire de Sophie Obadia, qui finalement nous parle de cela un peu en radical socialiste, de façon équilibrée.
Non, mais parce que moi, je pense que la justice, je pense vraiment qu'il faut réparer la justice. Je pense qu'on doit s'arrêter là. Si jamais le parquet fait un pourvoi en cassation, on le saura mardi, dernier délai, franchement, ce serait déplorable. Parce que ça suffit. Franchement, tout le monde a perdu dans cette affaire.
Parce qu'il faut rappeler les conditions de toute cette affaire. S'il avait été condamné, Éric Dupond-Moretti, c'eût été une première, parce que ça voudrait dire que la victime aurait été condamné. Il faut jamais oublier, et les journalistes sont mieux placés que les autres pour en parler, il faut jamais oublier qu'au point de départ, ce dont est victime Dupond-Moretti, ce sont des surveillances pendant 6 ans qui sont illégales et qui portent atteinte à la liberté des avocats, au secret des sources. Donc ce sont des données très importantes qui sont concernées dans ces affaires-là et qui sont passées à l'as parce que tout le monde n'a vu que la figure.
Non, c'est très très grave, l'atteinte est très grave.
Et je vais vous
dire, on s'arrêtera là.
Dans ce pays, plutôt que d'écouter les citoyens, les avocats, les journalistes et aussi parfois les politiques, on ferait mieux d'écouter la Calas. Merci à vous deux, à la semaine prochaine.
D'accord.